15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au quatrième trimestre de grossesse. Alors rassurez-vous, une grossesse ça ne dure toujours que 3 trimestres, mais notre invitée, la naturopathe Julia Simon, s'est intéressée à ces quelques mois juste après la naissance d'un enfant, ceux durant lesquels les femmes ont souvent du mal à se remettre de ce grand chamboulement, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Elle nous donnera tous ses conseils pour récupérer en douceur après un accouchement. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un vaccin, le vaccin HPV, car ça se précise, la Haute Autorité de Santé planche sur une vaccination recommandée aussi pour les petits garçons. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler d'un examen assez fréquent dans la population, la coloscopie, comment ça se déroule et concrètement à quoi ça sert. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Elle nous expliquera pourquoi il n'est pas toujours nécessaire, voire même dangereux, de trop en dire sur son passé amoureux et sexuel à son nouveau partenaire.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Geoffrey, 31 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle parce que j'avais une petite question. Voilà, j'avais comme projet de partir avec des amis au Pérou, donc prochainement, en fin d'année. Et en fait, l'un d'entre eux est sous dialyse. Donc je voulais savoir s'il pouvait quand même partir avec nous, s'il n'y avait pas trop d'inconvénients, si on devait préparer des choses pour lui, etc., etc. Merci à vous.
Alors, être sous dialyse régulièrement, effectivement, c'est déjà un parcours compliqué au quotidien. Mais alors, quand ces patients envisagent de partir en vacances, Jimmy, là, ça peut vite se compliquer. Encore plus, surtout si ces vacances, elles sont à l'étranger. Juste quand même pour commencer, rappelez-nous à quoi ça sert la dialyse.
Alors, la dialyse, c'est le traitement de suppléance lors d'une insuffisance rénale, lorsqu'elle est sévère ou terminale, qui vise justement à pallier l'inefficacité d'un rein qui ne marcherait plus. Le rein, c'est une sorte de filtre donc qui épure toutes les mauvaises bactéries, tout ce dont on doit éliminer dans l'urine. Et lorsque le rein ne marche plus, on doit être dialysé. Et c'est un traitement qu'on garde tant qu'on n'est pas transplanté. Parfois, on le garde toute la vie.
D'accord. Et donc, pour répondre quand même à la question de Geoffrey, effectivement, hein, son ami qui est sous dialyse, il peut quand même envisager de partir en vacances à l'étranger, j'imagine, pour au moins une semaine. Est-ce qu'il ne peut pas se passer de dialyse? C'est impossible.
Non, c'est impossible. Ouais. Un patient dialysé doit toujours être dialysé sous peine de mourir, tout simplement. C'est simple, parce qu'il va accumuler les déchets. Et s'il ne les élimine pas, il y a un risque vital. Alors, c'est compliqué, hein, les départs à l'étranger. C'est possible. En France, ça peut s'organiser, mais il faut énormément d'organisation, que ce soit sur le plan médical et puis sur le plan financier.
Alors, justement, en France, par exemple, on fait comment?
Alors, déjà, vous pouvez localiser le centre de dialyse où vous allez partir, pas loin du centre de vacances. Donc, vous allez sur centrededialyse.com et là, vous avez une liste. Ensuite, il faut aller à la Sécurité sociale au moins 15 jours avant pour demander une entente préalable pour que les frais liés aux soins de dialyse soient pris en charge par la Sécurité sociale. Et si vous devez partir à l'étranger, vous pouvez demander une carte qu'on appelle la carte européenne d'assurance maladie qui vous permet, sous certaines conditions, d'être exonéré d'avance de frais ou si jamais vous devez avancer des frais sur présentation de facture, vous pouvez être remboursé.
Alors ça va pour l'Europe, j'imagine, puisque c'est la carte européenne, mais si on part là, par exemple, au Pérou, comme dans la question, ça paraît plus compliqué, là, non?
Oui, c'est très compliqué. Il faut vraiment s'enseigner sur le coût que ça peut avoir, parce que ça peut très vite monter, avoir une proposition écrite, si possible, en euros.
Du centre au Pérou, qui pourrait éventuellement
qui
faire
pourrait
la dialyse.
Ouais. Être sûr qu'ils ont le matériel nécessaire, l'équipe formée. Et puis, vous pouvez éventuellement ensuite vous faire rembourser, si la Sécurité sociale vous l'autorise, après avoir payé vos factures, sous réserve de ne pas dépasser 300 euros par séance de dialyse. Donc, il est possible de se faire rembourser. Mais encore une fois, il faut énormément d'organisation et ça peut être un peu compliqué. Quand même.
Merci beaucoup, Jimmy. Effectivement, ça peut être un vrai parcours du combattant, malheureusement. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. C'est une auditrice, c'est Roselyne. On l'écoute.
La question est adressée au docteur Jimmy Mohamed. Je suis atteinte d'ostéoporose sévère depuis l'âge de 45 ans et j'en ai 84. Je jardine tout le temps. Reposer un petit peu l'après-midi. Pourquoi j'ai mal dans les os la nuit? Voilà, j'ai terminé. Je vous écoute tous les jours, donc je vous écouterai de nouveau lundi après-midi. Terminé. Au revoir.
Merci beaucoup, Roselyne, pour votre question. Alors, Jimmy, c'est bizarre ce qu'elle dit. Je pensais que l'ostéoporose, en dehors des douleurs en cas de fracture, ce n'était pas une maladie qui faisait mal.
Oui, on en a parlé. C'est vrai que c'est une anomalie de la densité osseuse et un trouble de l'architecture de l'os, mais qui, en l'absence de complications, ne donne pas de douleur. Donc, une ostéoporose qu'on aurait diagnostiquée sur ce qu'on appelle une ostéodensitométrie ne doit pas faire mal. Les seuls moments où l'ostéoporose fait mal, c'est lorsque on a une fracture. Donc, le col du fémur, on s'en rend bien compte. Le poignet, lorsqu'il est cassé. Mais ce qui peut faire s'ouvrir, c'est le tassement vertébral. Et donc ça peut être douloureux, plus que l'ostéoporose en tant que telle.
Pourtant, alors Roselyne a dit quand même qu'elle a donc de l'ostéoporose depuis des années, elle a été diagnostiquée, donc, et pourtant, elle a bien des douleurs. Donc il y a quand même quelques possibilités que ce soit l'ostéoporose.
Alors ça peut être des douleurs musculaires, elle a le droit d'avoir des spasmes, tout simplement au niveau de, par exemple, des dos, du dos ou d'autres articulations, mais aussi elle peut avoir peut-être de l'arthrose qui lui fait souffrir, ou peut-être qu'elle a des petits tassements vertébraux qui ne sont pas forcément diagnostiqués et qui peuvent la faire souffrir, parce que l'ostéoporose en tant que telle ne fait pas mal, c'est plutôt la complication, donc elle doit plutôt consulter.
Et elle dit la nuit en plus, la nuit, ça peut faire penser à une autre maladie,
attention,
je crois.
Les douleurs nocturnes qui vous réveillent ou qui sont majorées lors du réveil où il faut un dérouillage matinal sont suspectes de maladies inflammatoires, donc elle peut avoir une polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire rhumatismale. La spondylarthrite, c'est possible, c'est un peu plus rare chez la personne âgée. Donc je l'invite à consulter, peut-être qu'on fera des radios et des examens pour savoir si elle n'a pas une maladie inflammatoire au-delà de son ostéoporose qui la fait souffrir. On peut avoir plusieurs maladies à la fois.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Roselyne qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la vaccination contre les virus HPV chez les petits garçons qui est à l'étude. Et puis, on accueillera aussi notre invité, c'est Julia Simon, naturopathe, qui va venir nous prodiguer ses bons conseils pour se remettre au naturel d'une grossesse et d'un accouchement. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques minutes, on va accueillir notre invitée, la naturopathe Julia Simon, qui va nous donner ses conseils pour récupérer après un accouchement. Mais d'abord, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez du vaccin HPV. Aujourd'hui, il est recommandé uniquement pour les petites filles. Et là, la Haute Autorité de Santé ouvre une consultation pour qu'on étudie de le faire aussi chez les garçons.
Oui, pour l'instant, la stratégie de vaccination concerne uniquement les jeunes femmes et les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Or, 10 ans après ces nouvelles recommandations, on se rend compte que la couverture vaccinale est plutôt très insuffisante au regard des objectifs qui ont été fixés. Et par conséquent, la Haute Autorité de Santé soumet à une consultation publique jusqu'au 27 novembre un projet de recommandation en faveur d'une vaccination élargie à tous les garçons de 11 à 14 ans.
D'accord. Alors actuellement, seules les femmes donc, et les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes sont concernés. Hein, c'est
exactement.
Ça
et cette vaccination permet de prévenir l'apparition notamment du cancer du col de l'utérus, ça tout le monde le sait, mais aussi du cancer de la vulve, du vagin et aussi du cancer de l'anus. Et donc, lorsque la vaccination est associée au dépistage du cancer du col, elle constitue un vrai moyen de prévention et elle nous permettrait d'éviter 1000 décès par an. Et le problème, c'est que cette vaccination, donc, elle concerne que les femmes. Or, 25% des cancers provoqués par HPV surviennent aussi chez les hommes.
Et oui, donc on peut imaginer pourquoi ça serait intéressant. Mais est-ce que ce vaccin, il est vraiment sûr et est-ce qu'on a assez de recul finalement?
Oui, le vaccin s'appelle le Gardasil. Il a démontré son sécurité et son profil de tolérance. Et il est aussi bon chez les garçons que chez les filles. À l'étranger, il a aussi fait preuve de son efficacité. Là où la couverture vaccinale est bien supérieure à la nôtre. Mmh. Et en plus de ça, on sait que cette vaccination, elle est utile dans la prévention des condylomes génitaux et des lésions précancéreuses et cancéreuses liées à l'HPV. Donc on pourrait le faire vacciner, sauf que pour l'instant, la couverture vaccinale est seulement de 24% chez les petites filles, pour un objectif initial de 60% à l'horizon 2019. Donc on en est bien loin.
Et alors du coup, Jimmy, pourquoi élargir cette vaccination aux petits garçons?
Eh bien, une vaccination élargie à tous les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle, bénéficierait non seulement à leur santé, en les protégeant directement, mais aussi en améliorant la protection des jeunes filles non vaccinées. Et par conséquent, la Haute Autorité de Santé conseille de vacciner les petits garçons de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible pour tous les adolescents et les jeunes adultes de 15 à 19 ans, si cette consultation est validée, bien évidemment.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour. C'est Julia Simon. Elle est naturopathe spécialisée en périnatalité et l'auteur du livre « Bien vivre, son quatrième trimestre naturel » chez First Edition.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Bonjour Julia Simon.
Bonjour.
Alors d'abord, vous dédiez votre livre à vos deux petites filles, Léonie et Emma. Donc ça veut dire que vous êtes vous-même une maman. Et vous aussi, ce quatrième trimestre, vous avez senti que c'était une période assez compliquée, hein, je crois.
Oui, tout à fait. Ça a été très compliqué. Surtout pour la première, parce que je me suis sentie très préparée pour mon accouchement. J'étais... J'ai fait des cours de yoga prénatal, j'ai découvert l'ostéopathie, l'acupuncture, la naturopathie, les jus verts, le kale, tout ça. Bref, j'étais très prête, comme une championne olympique pour mon épreuve d'accouchement. Et en fait, je me suis rendu compte dès le lendemain de mon accouchement, avec la fatigue qui était due à mon hémorragie de la délivrance, avec mes douleurs qui étaient dues à l'allaitement, qu'en fait, j'étais pas trop préparée pour ce qui allait arriver.
C'est vrai, parce que finalement, on nous prépare énormément. Il y a plein de bouquins sur la grossesse, l'accouchement, tout ça, c'est sûr. Mais l'après, c'est un peu tabou, quoi. Ce qu'on appelle le postpartum, les femmes, finalement, elles savent même pas ce que c'est. Hein.
Exactement. En fait, postpartum, ça veut tout simplement dire après accouchement. Et c'est vrai que même les femmes sont pas forcément au courant de ce que cela signifie. Par exemple, j'ai accompagné une jeune femme à qui avait accouché peut-être 2 mois avant, et je lui ai demandé, voilà, comment ça va, comment s'est passé votre postpartum? Et là, elle m'a répondu, bah, très bien, merci, je n'en ai pas eu. Donc là, j'ai un peu bloqué, et je l'ai regardée, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on associe trop souvent la période du postpartum avec une période de dépression. Et en fait, je pense que le postpartum, c'est bien plus que ça. Ça peut être une période qui peut être très riche et très intéressante pour la femme.
Jimmy ?
Très riche et très intéressante, mais quand même, qui peut être un peu parfois compliqué, notamment sur le plan physique, c'est pas le moment où la femme se sent le plus en forme.
Non, c'est sûr, c'est une période qui demande beaucoup de récupération. Et je pense que c'est vraiment sur ça qu'on devrait jouer, c'est sur la récupération physique de la femme en lui proposant plusieurs choses. Donc c'est vrai qu'on peut parler de l'alimentation, je suis sûre qu'on va parler aujourd'hui de plein de sujets, mais c'est vrai que la récupération est très importante et c'est pas forcément facile pour la jeune maman, c'est vrai.
Et vous, ce que vous proposez dans votre bouquin, c'est justement de commencer finalement dès le troisième trimestre de la grossesse. Hein. C'est là parce que finalement, ce postpartum, ce quatrième trimestre, on peut l'anticiper un petit peu, hein, c'est ça?
Exactement, moi je pense qu'on peut vraiment le préparer, c'est vraiment une période qui s'accompagne. Et pendant le troisième trimestre, ce qu'on peut faire, c'est d'ores et déjà préparer des petits plats. On a beaucoup de temps en fait, enfin en tout cas on a un peu de temps pendant le troisième trimestre, on tourne un petit peu en rond.
Oui, on travaille plus souvent.
Exactement.
Ça, c'est là qu'on a un congé maternité.
Ouais. Et donc, ça peut être le moment où on fait le plein, on remplit son congélo de bons petits plats, on s'occupe un petit peu en amont de rassembler autour de soi notre équipe ressource avec les personnes qui vont nous être utiles après et qui vont nous accompagner. Ça peut être le moment aussi de prendre des rendez-vous avec notre ostéopathe pour l'après, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire pendant le troisième trimestre.
Et on est d'accord, juste rapidement, votre livre, c'est pas un conseil pour les femmes qui ont une dépression postnatale, hein, c'est pas ça?
Exactement, pas du tout. Hein. En naturopathie, nous, notre but, c'est d'accompagner les personnes en prévention de manière naturelle pour qu'elles restent en santé. Donc dès qu'on parle de dépression postpartum, là, ça passe chez les professionnels médicaux comme les médecins, les gynécos, comme Jimmy Mohamed.
Oui.
Tout à fait.
C'est pas vous qui allez soigner une dépression, effectivement. Merci beaucoup, Julia Simon. On va poursuivre cet entretien. Vous restez avec nous dans un instant. On passe à la pratique, à la vraie vie. L'après-grossesse, ça se prépare. D'ailleurs, dès le troisième trimestre, on vient de le dire, l'anticipation, ça fait partie de la réussite, d'une remise en forme plus rapide une fois que bébé sera là. Un bébé, c'est un grand bonheur, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier de s'écouter aussi en tant que femme, de faire du bien à son corps et à son esprit. On vous dira tout, mais d'abord, on se détend avec un peu de musique, avec Marie-Flore et son titre « Tout ou rien ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, Julia Simon. Elle est naturopathe et spécialisée en périnatalité. Alors Julia, avant de rentrer dans les conseils pratiques, il faut quand même revenir sur cette période postnatale. Hein, dans les quelques jours donc, qui suivent la naissance d'un enfant, d'abord, 80% des femmes vont traverser ce qu'on appelle le baby blues, hein, c'est ça?
Tout à fait, oui. C'est cette période qui arrive souvent quand on est encore à la maternité. Elle est souvent due du coup à une chute hormonale. Et c'est vrai que c'est une période pendant laquelle maman... Au niveau de ses humeurs, de ses émotions, ça va être un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de pleurs qui sont présents à ce moment-là. Et c'est un moment justement où la jeune maman, elle a vraiment besoin d'être accompagnée et soutenue. Donc ça, c'est la place du partenaire, mais c'est aussi la place de la sage-femme aussi à la maternité.
Vous avez jeté un œil, Jimmy, elle a dit le partenaire, comme ça, elle vous a regardé. Vous avez soutenu votre femme si elle a eu des baby blues?
Oui, bien sûr. J'étais là avant l'accouchement, pendant et puis après. Et je pense qu'il faut être accompagné aussi pour éviter, pour en tout cas que ça passe le plus rapidement et le plus, on va dire, facilement possible.
Ouais.
Ce que vous conseillez dans votre livre, c'est donc notamment d'anticiper. Vous disiez tout à l'heure, on prépare au troisième trimestre, on a un peu plus de temps, on est en congé maternité, on fait des petits plats éventuellement à l'avance. Et vous dites surtout, j'avais une phrase qui est dans votre livre, vous dites qu'il faut un village pour élever un enfant. C'est une phrase que vous aimez bien. C'est-à-dire qu'on peut préparer pendant la grossesse une liste de personnes ressources. On fait quoi concrètement?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'adore cette phrase parce qu'en fait, ça nous met vraiment en perspective l'importance de notre entourage. Et c'est vrai qu'avant, on était entouré de nos tantes, nos cousines, notre mère, notre grand-mère, etc. Et ce village, il n'existe plus maintenant. Donc c'est à nous de le reconstruire. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut demander du coup à notre belle-mère, à notre mère ou à nos copines qui savent super bien cuisiner, bah, par exemple, de nous préparer des bouillons en amont, de nous préparer des petits plats. Ça peut d'ailleurs être une super idée après avoir accouché que d'avoir des copines qui viennent à la maison et qui nous apportent des cookies ou des petites choses à manger qui vont vraiment nous réconforter et nous faire du bien.
Jimmy ?
Et tout à l'heure, vous parliez de l'alimentation et vous dites qu'il faut avoir une alimentation vitalisante.
Ouais.
Alors, c'est prometteur, mais ça consiste en quoi ? Quel aliment il faudrait avoir ?
Alors, l'alimentation qui est vraiment très privilégiée pour l'après-accouchement, ça va être une alimentation qui va être très chauffante, réconfortante et reminéralisante.
La soupe, quoi, en fait ?
Alors, c'est pas tout à fait la soupe. C'est assez proche de ça, c'est le bouillon. Moi, j'adore, c'est le bouillon de légumes, par exemple, ou le bouillon de poulet. C'est vraiment pour moi un aliment qui est très facile à digérer pour la jeune maman. Ça va lui donner beaucoup de force. À l'intérieur, c'est rempli par exemple de minéraux, de collagène aussi, qui vont réparer les tissus, soutenir les articulations. Ça va nous aider aussi avec les acides aminés essentiels, dont la glycine, qui nous permet de bien récupérer au niveau musculaire. Donc ça, c'est important après avoir accouché. Enfin, c'est un anti-inflammatoire aussi, le bouillon. Et donc ça, je pense que vous allez adorer tous les deux, parce que du coup, ça va travailler sur les intestins et sur la flore intestinale. Et donc, ça va soutenir aussi l'immunité. Et je sais que c'est un thème qui vous plaît beaucoup.
Le microbiote, on est tous fans.
Exactement. On en parle quasiment.
Donc le bouillon, c'est bien parce qu'on n'y pense pas forcément.
On n'y pense pas.
Et parce que c'est chaud, vous dites, parce que c'est très important d'être réchauffant. C'est vrai qu'on sait qu'après la naissance, le bébé, il a besoin d'être au chaud. Mmh. On les couvre énormément. On leur met des bonnets, des chaussettes, des gants. Et la femme aussi, elle a besoin d'être réchauffée.
Exactement. En fait, la chaleur, c'est assez marrant. C'est qu'on trouve ça dans toutes les traditions dans le monde. C'est très important que la femme, elle soit au chaud. Donc au chaud à l'intérieur, donc avec ce qu'elle va manger, mais aussi avec l'extérieur, donc dans les pièces dans lesquelles elles vont être. C'est important parce que ça veut dire aussi que dans les choix de notre alimentation, on va vraiment choisir des choses chaudes. Donc là, on parlait du bouillon. Il y a aussi dans les premiers jours la soupe miso qui peut être très intéressante. Et dans les premières semaines qui vont suivre l'accouchement, là, on va vraiment s'orienter vers du gras, du chaud, du mijoté. Et donc là, ça peut être par exemple des curry de légumes, par exemple, avec du lait de coco. Ça peut être aussi des dalles de lentilles. Ça peut être aussi du chili, sin ou con carne. Donc voilà, et tout ça, ça va vraiment apporter du réconfort à la jeune maman.
Il y a des super aliments aussi dont vous parlez dans votre livre qui sont très bons au moment justement après l'accouchement. On a parfois perdu du sang, etc. C'est quoi ces super aliments ?
Alors il y en a un que moi j'adore, c'est la baie de goji. Alors je ne sais pas si vous la connaissez.
On la retrouve
de plus en plus en magasin bio ou dans les grands magasins.
Il y en a presque partout, effectivement.
Exactement. Et en fait, ce super aliment-là, il a comme propriété de pouvoir nourrir le sang. Alors nourrir le sang, c'est un terme qui est un petit peu bizarre, mais en fait, ça vient de l'énergétique chinoise. Comme la jeune maman a perdu pas mal de sang, parfois pendant l'accouchement, mais surtout pendant les semaines qui suivent, c'est important qu'elle puisse nourrir son sang. Et donc la baie de goji, elle peut aider à faire ça. Donc la baie de goji, tout simplement, on peut l'utiliser en snack, avec des amandes par exemple, ce genre de choses. Ou si comme moi, vous n'aimez pas trop le goût, vous pouvez les faire tremper dans une tisane, comme ça elles vont gonfler, elles seront beaucoup plus agréables après pour la mastication.
Jimmy ?
Et donc tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait anticiper et se servir du troisième trimestre de grossesse pour faire des plats.
Ouais.
Mais du coup, on les met tous au congélateur, mais on va falloir en faire combien ? 50 ? Et on va pouvoir garder les qualités nutritionnelles et les vitamines malgré la décongélation, même si on les consomme plusieurs mois après.
Tout à fait. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment la solution optimale pour les jeunes mamans. C'est pas grave. Si votre congélateur est rempli de sachets que vous allez mettre à plat avec des bons plats à l'intérieur, ce sont des choses qui vont vous éviter après de beaucoup trop grignoter, d'aller chez votre magasin de surgelés préféré et du coup prendre des plats qui vont être déjà préparés en amont avec beaucoup d'additifs, beaucoup de sel en général. Donc oui, même si on préfère les aliments qui vont être chauffés avec une cuisson douce, etc., c'est vrai que les congelés maison, c'est quand même la meilleure solution et c'est mieux que rien. Et de toute façon, on fait de son mieux.
Et si on n'a pas le temps, effectivement, même à la troisième trimestre, on n'a pas le courage, on peut éventuellement, une fois qu'il est né, appeler son meilleur traiteur ou...
c'est très intéressant comme question. Sachez qu'il y a des sociétés maintenant qui font ça, qui font des livraisons à domicile, justement avec des plats pour les jeunes mamans. Donc ça existe. Et ça peut être une solution, ça peut être un super beau cadeau de naissance, par exemple, quand on ne sait pas trop quoi se faire offrir.
Et vous dites que les femmes, il y a aussi un terme, juste rapidement, qu'elles ne connaissent pas et qui devrait être important, c'est la matrescence.
Oh là, Mélanie,
c'est quoi ?
Je suis hyper contente que vous me posiez cette question. En fait, la matrescence, du coup, je trouve même que le mot, il est hyper beau. Le postpartum, comme j'essaie de vous le montrer, c'est vraiment une période qui va être sensible, délicate. Mon souhait, en fait, c'est que tout comme on connaît très bien le mot adolescence maintenant, mais plus tard, tout le monde connaîtra le mot matrescence, cette période de transition pour la jeune maman. En fait, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par une anthropologue américaine, Dana Raphael, et qui montre très bien que tout comme l'adolescence, c'est une période de transition de l'ado qui devient un adulte, et bien la matrescence, c'est notre période de transition à nous les femmes pour devenir mère. Et il y a plein de choses qui se jouent, aussi bien physiques, émotionnelles que identitaires.
Et déjà le savoir, ça permet d'avancer. Merci.
Exactement.
Julia, Simon, on continue cette discussion dans un instant. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue avec tous les conseils pour récupérer émotionnellement et physiquement après la naissance d'un enfant. Ça va intéresser les futures mamans et les jeunes mamans, mais aussi tous leurs proches, j'en suis certaine. On va parler hydrothérapie, massage et même un peu d'activité physique, enfin plutôt de mouvement en douceur. Pas question de courir un marathon à la sortie de la maternité, vous inquiétez pas, restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée Julia Simon. Elle est naturopathe spécialisée en périnatalité. Alors il y a quelques minutes, Julia, vous nous avez parlé notamment de ce qu'une jeune maman doit mettre dans son assiette pour récupérer les premiers jours. Mais récupérer, ça passe aussi par l'activité physique. Vous dites, vous, dans votre livre, que dès la salle de naissance, quand tout s'est bien passé, bien sûr, hein, on peut se remettre en mouvement. Comment ? Alors moi, je me souviens de la salle de naissance. J'étais vraiment morte hein, de fatigue. Hein.
Ok. Ouais. Ah oui.
Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour me remettre en mouvement ?
Vous auriez pu mettre en place la fausse inspiration thoracique. En fait, c'est une respiration qui peut se faire quand on est allongé, et elle va vous permettre de mettre en mouvement du coup vos organes et notamment de les aider à se remettre un tout petit peu en place ou en tout cas à les remonter. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'on sait qu'il y a le poids de la gravité, et donc ça veut dire que quand vous allez vous lever de votre lit pour aller dans votre chambre, par exemple. C'est un moment, des fois, qui est un petit peu difficile pour les mamans. Et donc, le fait d'avoir fait cette fausse inspiration thoracique un petit peu en amont, ça peut vous aider.
C'est des exercices de respiration, en fait. C'est ça, juste le mouvement que vous préconisez.
Exactement.
Hein, c'est pas plus que ça.
Non, c'est un mouvement de respiration. Et là, les sages-femmes peuvent tout à fait vous montrer comment les faire. Et souvent, on retrouve cette respiration-là aussi pendant la rééducation du périnée avec votre sage-femme ou avec votre kiné.
D'accord. Alors ça, c'est pour la salle de naissance, on va dire. Une fois qu'on est de retour à la maison, on a accouché parfois depuis 3 ou 5 jours. Mm-hmm. Là, on fait quoi ? Des étirements. D'abord, là, pareil, il n'est pas question de se remettre à courir en footing. Quoi.
Exactement, c'est pas le moment de se remettre à faire de la boxe ou de trampoline.
Non.
On est d'accord.
C'est ça.
Le but, c'est vraiment d'être dans le mouvement. Donc, du coup, de s'étirer, ça peut être intéressant. Souvent, les jeunes mamans, le fait de porter leur enfant ou d'allaiter, elles se mettent toujours dans des positions qui sont un petit peu inconfortables. Donc, elles peuvent avoir des tensions au niveau des trapèzes. Le fait même de se faire des automassages au niveau des trapèzes, ça peut beaucoup les soulager.
Et s'étirer, on fait ça quand ? Parce que quand on a un bébé, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps de rien. Mais au réveil, quoi, par exemple ?
On fait ça quand on a le temps, quand on sent que c'est OK pour nous. Le but, ce n'est pas du tout de se mettre la pression, c'est vraiment d'écouter son corps, d'écouter ses besoins et ses envies.
Jimmy ?
Et vous proposez de se mettre notamment au yoga et au pilates, et même avec le bébé, c'est ça ?
Il y a des cours qui existent avec les bébés, il y a des cours maman yoga qui existent et qui sont hyper sympas, ça vous permet de rencontrer d'autres mamans et du coup d'agrandir votre communauté.
Mais il fait quoi le bébé pendant ce temps ? Il fait du yoga lui aussi ?
C'est ça, il vous regarde avec amour, je pense.
Il y a même des cours de danse, je crois, pour jeunes mamans, avec bébé. Alors là, il faut m'expliquer comment on danse avec un bébé.
Ouais, c'est hyper intéressant comme méthode, vous pouvez faire ça soit avec une écharpe de portage par exemple, et ça peut être hyper sympa, ou avec votre bébé directement dans les bras, mais en général les bébés sont portés dans une écharpe.
Donc il y a un côté en plus, on lâche pas petit quoi. Si on a du mal à s'en séparer, et en plus on fait du bien à son corps, c'est
exactement. Ça vous permet de lancer plein d'hormones, de l'ocytocine, etc., de bouger, d'être dans une belle énergie, de prendre du plaisir surtout, et ça c'est très important pour une jeune maman.
Alors dans les tout premiers jours, et même ça peut durer un peu plus longtemps que les premiers jours, on peut avoir tout un tas de douleurs après un accouchement, mais souvent c'est vrai que les femmes elles oublient de s'écouter, c'est d'abord bébé en priorité dans ces premiers jours, premières semaines. Or vous vous dites qu'il faut aussi prendre en charge toutes ces douleurs, le dos, le ventre, il faut s'en occuper tout de suite et pas attendre que bébé 6 ou 7 mois, c'est tout de suite, hein, c'est ça ?
Bah, idéalement, on s'en occupe tout de suite, parce que plus on va attendre, plus ça va empirer, en fait. Et plus on va avoir de douleurs, plus on va être fatigué. Et la fatigue, quand on est une jeune maman, c'est difficile à s'en remettre. Donc plus vous allez être fatigué, moins ça va être évident. Et donc du coup, ça va être une sorte de cercle vicieux qui va vous empêcher de prendre du plaisir à embrasser votre nouveau rôle de mère, par exemple.
Et c'est quoi ces douleurs, par exemple, qu'on peut avoir les plus fréquentes ? Et on fait quoi, justement ? On peut avoir mal au ventre, par exemple, des douleurs digestives, c'est ça ?
On peut avoir des douleurs digestives aussi, tout à fait. C'est vrai que souvent, en fin de grossesse, les futures mamans sont souvent un petit peu constipées. Ça peut être ça. Ça peut être un transit qui peut être un petit peu plus long à se mettre en place. Ça peut être des douleurs de dos également. Donc là, il faut aller voir son ostéopathe, par exemple. Ça peut être une très bonne idée.
Ou un kiné.
Ça peut être...
lorsque la maman allaite, elle a souvent des positions un peu vicieuses. Vous êtes en avant, sur le côté.
J'avais tellement mal au cou, là, sur le côté, quand j'allaitais. C'était horrible. Même l'épaule, j'avais une espèce de comment on appelle, pas tendinite, mais de sciatique du bras, là, vous voyez ce que...
Oui, une névralgie, donc à ce moment-là, et souvent la femme néglige, parce qu'elle consulte pour son bébé, essentiellement, et puis elle endosse son rôle de mère, comme un sacerdoce, en disant, il faut que je souffre. Or, vous le dites très bien, ostéopathe, kiné, médecin, massage du compagnon, s'il y a jamais quelqu'un, ça peut être pas mal.
Oui, c'est sûr, on n'attend pas effectivement 7 ou 8 mois. Dans votre bouquin, vous parlez aussi de l'hydrothérapie, donc en gros des bienfaits de l'eau
à
tous les niveaux, en gros. Hein, parce que l'eau, il faut la boire, les tisanes, les bouillottes. Enfin, expliquez-nous, c'est quoi tous ces bienfaits de l'eau, justement ?
C'est vrai qu'on sait que quand on boit beaucoup d'eau et qu'on n'est pas déshydraté, ça va nous aider à nous défatiguer. Donc l'eau est très importante. Les femmes qui vont allaiter, souvent, elles sont quand même très contentes de prendre des tisanes d'allaitement. Donc, c'est vrai que l'hydro, ça peut être vu de ce point-ci. Ensuite, c'est vrai que les bouillottes, on adore les bouillottes. La chaleur, ça va nous réconforter.
Ah ouais, moi j'adore
ça
les
va
bouillottes.
Nous détendre. Ouais, là, vous parliez tout à l'heure de douleur de dos. ça peut tout à fait nous apaiser, en fait, les bouillottes. Quand on a mal au ventre, par exemple, etc., ça peut nous apaiser aussi. Notamment, vous savez, ces fameuses tranchées des premiers jours où ces contractions-là, elles continuent.
Une bouillotte à la maternité, c'est une bonne idée.
Exactement, ça peut tout à fait faire partie de votre valise de maternité.
D'accord. Et les bouillottes, ok, boire de l'eau, des tisanes, les saunas, les hammams, tout ça aussi, ça fait du bien, prendre des bains, je sais pas.
Le fait de prendre des bains, ça peut être pas mal. Souvent, on attend d'avoir l'autorisation de notre sage-femme pour prendre des bains, mais c'est vrai que l'eau, ça apaise. Ça détend, donc ça c'est un moment qui peut être magique pour une maman. On parle souvent du fait qu'on n'a pas le temps de la journée, alors du coup pourquoi ne pas prendre un bain chaud le soir quand les enfants sont couchés par exemple, ça peut bien vous détendre. Dimi ?
Et donc on a parlé des bienfaits des massages et vous dites qu'une jeune maman peut commencer à faire de l'automassage, mais attendez, ça marche hein, parce que c'est pas sympa ça de se masser soi-même, on n'a pas la même sensation.
Alors on peut se remasser
par son... Dimi, il aime faire des massages, on dirait.
C'est vrai que le massage avec le partenaire, ça peut être beaucoup plus sympa, mais c'est vrai que souvent les femmes, elles ont du mal à se reconnecter avec leur corps. Donc le fait de faire des automassages, notamment au niveau du bas du corps, bah, ça peut leur permettre de se reconnecter à elles.
Au niveau du ventre, par
exemple,
c'est ça ?
Exactement, ouais, dans leur base en fait, ça c'est important. Ça peut les aider sur tout ce qui est digestif au niveau du transit, mais vraiment elles vont prendre un temps pour elles pour se reconnecter. Se retoucher, ça veut dire aussi que si jamais elles ont des problèmes de cicatrice avec une césarienne, par exemple, le fait de se reconnecter à cette cicatrice...
En la massant avec
exactement,
le quoi, par exemple.
Ça peut être avec des huiles végétales, toute simple. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre trop la tête pour ça. Une huile végétale que vous trouveriez dans votre cuisine, une huile de sésame, par exemple, même de l'huile d'olive.
Ah oui, ce qu'il y a dans ma cuisine, j'ai pas
exactement.
Besoin d'aller acheter un truc spécial.
Je pense que souvent, on se donne beaucoup de freins pour faire des choses, et en plus ça va être facile... Plus vous allez le mettre en place, du coup, je pense, chez vous. Donc, une huile de sésame de la cuisine, ça passe très, très bien.
Donc, automassage du ventre, on se masse d'une manière spéciale. Je sais pas, parce que je sais que les bébés, quand ils ont des problèmes digestifs, on les masse toujours
dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est pareil pour nous, c'est ça ?
On pourrait faire exactement la même chose, tout à fait. Ouais. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Et vous conseillez aussi donc, l'ostéopathie ou la kiné, ça vous l'avez dit. L'appareil, ils ont des soins spécifiques pour les jeunes mamans. Ils agissent sur quoi essentiellement le bassin et tout ça ? Ouais,
tout à
ça.
Fait. Ils vont agir sur le bassin, ils vont agir souvent sur le système de transit également. Donc voilà, suivant leur spécialité, ils vont agir sur des choses différentes.
Jimmy ?
Et puis, un fait qui est souvent négligé, c'est le sommeil. Le sommeil est souvent compliqué, surtout lorsque la maman allaite. Moi, je leur dis souvent de dormir quand le bébé dort en journée, quand il est 15
heures. On dit toujours ça, mais c'est compliqué.
Mais c'est souvent compliqué parce qu'on a toujours envie de faire plein de trucs. On a envie de faire le ménage, on a envie de profiter,
de faire
autre chose.
J'ai envie de faire une lessive, j'ai envie de faire... Et puis après, une fois que c'est l'heure de dormir, on est trop fatigué, on est trop énervé. Et là, le bébé se réveille.
Bah c'est ça. Et apparemment, vous avez un petit truc, un point d'acupression qui permettrait de nous aider à trouver le sommeil.
Alors, il y en a plusieurs en fait.
Dans l'oreille, là, celui-ci, on l'a
donc,
vu.
Dans l'oreille, c'est celui qui est la porte de l'âme, le shenmen. Vous pouvez utiliser soit votre doigt, c'est un petit coton-tige pour vous masser en effet le haut de l'oreille, tout à fait.
Donc, comment on fait ? Attendez, je prends un coton-tige. Ouais. Et je le mets
alors, c'est à quel endroit dans l'oreille ? On va essayer d'expliquer à nos auditeurs. C'est pas dans l'oreille,
non,
c'est dans la partie supérieure de l'oreille.
Exactement.
Dans le cartilage
un petit peu au-dessus. Exactement.
Voilà. Et là, il y a un point.
Que vous allez pouvoir masser, donc ça peut être donc avec soit un coton-tige, bon, même si c'est pas très zéro déchet, ou avec un stylo si vous le souhaitez.
Voilà.
Et vous allez du
ou
coup,
avec le doigt, on peut le faire avec les deux doigts.
Vous pouvez le faire avec les deux, c'est encore plus facile.
Un derrière de l'oreille, un devant l'oreille.
Et du coup, là,
et
vous pouvez masser. Et vous les massez.
Redonnez le nom du point, on pourra aller regarder sur internet pour ceux qui.
C'est le point Shenmen.
Shenmen.
Vous avez dit la porte de l'âme, c'est
ça ? Oui, c'est ça pour les Chinois. Ouais,
c'est très sympa. Hein.
Et comment donc on masse en combien de temps ? On fait ça combien de temps ?
Vous pouvez faire ça pendant 2-3 minutes par exemple. Et pareil, là, c'est vraiment très théorique. Si vous le faites que pendant une minute et que votre enfant se réveille à ce moment-là, c'est pas grave, vous aurez déjà gagné une minute, donc c'est énorme.
D'accord. Et les papas aussi, vous en parlez un petit peu dans votre livre, les papas aussi peuvent traverser une période un peu compliquée après la naissance d'un bébé. Alors certes, ils n'ont pas accouché, mais pour eux aussi, ça peut être un gros chamboulement. Et comment on prend soin à la fois du papa ? Bon, déjà, on prend soin de soi, ça c'est sûr, c'est l'émission sur les mamans quand même. Hein. C'est quoi leur rôle dans tout ça ?
Ils ont un rôle qui est très important. C'est grâce à eux que la maman va prendre confiance en elle, souvent. Hein. Donc... mais c'est vrai qu'eux peuvent aussi être dans des situations qui sont difficiles. Apparemment, il y aurait 17% des papas qui font des daddy blues.
Ah oui.
C'est énorme.
Les 17%, mais, ça vous parle, mais excusez-moi, ils ne sont pas un peu fragiles, ces papas-là. Honnêtement, c'est la maman qui endure la grossesse avec les bouleversements hormonaux, physiques. C'est elle qui accouche, souvent celle qui est en première ligne. Et ce serait les papas, 17% de eux, qui auraient un daddy blues.
Et en même temps, les papas, souvent, c'est difficile pour eux parce que la maman a... tendance à avoir des difficultés à lâcher un peu prise, et donc ça veut dire que le papa est souvent très critiqué. Et vous savez, je pense qu'il y a vraiment un problème dans le postpartum où on en parle pas assez, nous, entre femmes, et je pense que les hommes, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il y en a plein qui souffrent, et en fait, ils gardent ça pour eux, ils ont pas cet espace de parole-là, donc je pense que ça doit pas être très, très facile.
Non, mais
eux.
Que les papas gardent leur parole, hein, qu'ils ne se plaignent pas, qu'ils laissent la maman, faut dire. Moi, je pense que c'est plutôt.
Jimmy, le défenseur des femmes.
Oui.
À la fin de votre livre, vous parlez quand même un tout petit peu de sexualité, juste pour terminer. Comment on retrouve sa flamme de femme, finalement ? Est-ce que vous conseillez, évidemment, c'est de prendre son temps, hein, d'attendre d'être prêt. Et d'abord, vous dites, avant même de parler de pénétration ou de rapport sexuel, il faut se reconnecter à l'autre. Comment on fait ?
Ça va dépendre de votre couple. Souvent, la communication, ça va être une première bonne chose. Le fait de parler, de discuter ensemble, le fait de passer du temps à être à côté, à discuter, à se masser, par exemple. On parlait des massages tout à l'heure. Est-ce que ce ne serait pas un bon moment pour se masser, par exemple ?
C'est vrai, c'est ça, exactement. Donc, se reconnecter avec son corps, puis se reconnecter avec son compagnon également. Merci beaucoup, Julia Simon, d'être
avec
venue
plaisir.
Sur notre plateau.
Merci,
nous expliquer en douceur comment se remettre d'un accouchement sur tous les plans, physique et psychique. Je rappelle le titre de votre livre, Bien vivre le quatrième trimestre au naturel, paru chez First Edition. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à un examen assez fréquent dans la population, la coloscopie. Comment ça se déroule et concrètement, à quoi ça sert? On va tout vous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui on parle de la coloscopie, un examen assez courant dans la population, que certains redoutent d'ailleurs. Alors c'est quoi une coloscopie? Que cherche-t-on? Est-ce douloureux? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole, on écoute son micro-trottoir.
Je crois que c'est une méthode pour récupérer quand on a besoin de récupérer des échantillons de quelque chose dans notre corps.
Tu fais ça quand t'as 50 ans, c'est obligatoire.
Comme si c'était une radio avec une caméra et qu'on fait rentrer par l'anus, voir ce qui se passe à l'intérieur.
Je sais pas trop si c'est gros ou quoi, mais j'imagine que ça doit quand même être imposant pour que le spécialiste puisse récupérer les échantillons de ce qu'il a besoin de récupérer.
Peut-être qu'il y a une anesthésie locale.
Ça doit pas être forcément agréable.
On doit mettre un peu de vaseline, on doit mettre un petit tube avec une caméra. Et puis hop, blout, on rentre là et puis, on observe avec la caméra, observe sur un grand écran, on peut tout voir à l'intérieur sur le grand écran. C'est comme c'est une opportunité assez unique.
Si c'est gonflé, si c'est inflammé.
Il doit y avoir des inflammations, il doit y avoir des hernies.
Des maladies, enfin des virus, mais pour moi, ils prennent des échantillons pour après analyser et voir si la personne a un cancer à différents niveaux du corps. Quoi.
Bon Jimmy, il y a quelques idées là sur la coloscopie, mais tout n'est pas voilà. Bon, on va faire un point justement, on sert à ça. Concrètement, Jimmy, la coloscopie, c'est quoi comme examen ?
Eh bien, c'est l'examen qui permet de visualiser ce qu'on appelle le gros intestin, le côlon, et une petite partie de l'intestin, son l'extrémité distale.
Mais à l'intérieur.
À l'intérieur, exactement. Donc, on insère une caméra au bout de laquelle on a une petite, c'est un tube au bout de laquelle on a une petite caméra, et on observe les parois du côlon, donc l'aspect macroscopique, on se guide au travers du côlon, et on à ce moment-là, on examine si on retrouve une anomalie quelle qu'elle soit, ça peut être un petit polype à partir de quel on va pouvoir l'enlever ou faire une biopsie.
Au cours de l'examen, on peut l'enlever le polype.
Exactement,
d'ailleurs, hein,
on peut s'en débarrasser et puis on peut aussi faire des petites biopsies et on peut coaguler des petits vaisseaux qui saignent. Donc c'est un examen qui est invasif et qui se fait sous anesthésie.
D'accord, alors cet examen il sert à faire le diagnostic de quelle maladie en fait, par exemple, ou quel problème de santé je dirais.
Alors on peut les catégoriser en deux choses, les maladies inflammatoires du tube digestif, lorsque vous avez des diarrhées sanglantes, une alternance de diarrhée, de constipation, des douleurs abdominales chroniques, des selles inexpliquées, une constipation qui s'installe et qu'on suspecte une maladie inflammatoire, on fait une coloscopie. Mm-hmm. Mais ça peut être, vous savez, on avait parlé de ces petits tests.
Ah oui,
tests
qu'on
caca,
fait à la maison, là, le test caca. Là,
pour
oui, c'est
dépister
ça.
La présence à l'échelle microscopique
de sang. Et quand ça ne va pas, on nous envoie faire une coloscopie, justement.
Et lorsque
justement.
Ce test est positif, mm-hmm. C'est pas lorsque ça ne va pas, lorsque le test est positif, on nous dit qu'il faut aller faire une coloscopie. Et puis, ça peut aussi permettre de diagnostiquer certains cancers. C'est le diagnostic qu'on pose avec la coloscopie. Mm-hmm. Et donc, c'est après avoir fait des biopsies qu'on envoie au laboratoire d'anatomopathologie. Et on a les résultats au bout de quelques semaines. Mais encore une fois, on ne fait pas des coloscopies juste parce qu'on a un peu mal au ventre, juste parce qu'on a de la nausée. Il y a de vrais critères et c'est le médecin qui le propose. Et parfois même, on fait à la fois la fibroscopie gastrique, donc on va voir l'estomac.
Par la bouche.
Et la coloscopie
par l'anus. D'accord. Alors cet examen, par contre, il faut quand même préciser à nos auditeurs, avant d'aller faire une coloscopie, il y a une petite préparation. Hein.
Exactement. Alors ça se fait sous anesthésie générale. Alors on fait une légère sédation. L'examen dure que quelques minutes. Donc vous êtes quand même endormi, mais ça veut donc dire que vous avez besoin d'une consultation d'anesthésie qui se fait une dizaine de jours au préalable. Et puis lorsqu'on examine le côlon, le côlon est plein de matière et donc il faut que le côlon soit
plein de
propre.
Plein de caca, hein, faut dire.
Exactement, de matière fécale. Et donc le côlon doit être propre. Et pour qu'il soit propre, il faut le préparer. Donc durant quelques jours, on peut proposer un petit régime sans résidus pour évacuer justement le côlon et qu'il n'y ait pas de résidus au moment de l'examen.
Pas de légumes verts, pas de crudités, pas de salade.
Exactement.
Voilà, tout ça c'est précisé de toute façon au moment
oui,
de la prise de rendez-vous.
Il y a un protocole qui est précisé.
D'accord.
Et puis on propose la veille aussi une préparation à boire. Alors il y a deux types. Il y a la solution qui est vraiment pas bonne à boire. On doit boire 3-4 litres sur une heure, c'est pas bon. Et puis il y a aussi des petits sachets qu'on prend la veille qui permettent de vider complètement. Alors là, on
ça
a la diarrhée.
Une diarrhée, hein, c'est
une
ça.
Diarrhée
mais pas
très
douloureuse. Hein.
Pas douloureuse, mais plutôt inconfortable, qui permet d'avoir une bonne préparation parce que souvent les patients peuvent négliger cette préparation. Or, Imaginez, vous arrivez, vous avez une anesthésie générale, votre col est mal préparé, et ben, peut-être que le gastro-entérologue ne verra pas le polype responsable d'un éventuel cancer.
Donc, c'est très important.
Donc la préparation est encore plus importante que l'examen en tant que tel.
Mais c'est l'examen en tant que tel, hein, pour terminer, il n'est pas douloureux. Hein.
Non, pas du tout.
Vous êtes sous anesthésie
générale, ça se fait en ambulatoire, c'est-à-dire que vous arrivez le matin, on vous fait l'examen, petite anesthésie qui dure que quelques minutes, hein, l'examen dure moins d'une demi-heure quand tout se passe bien. Vous vous réveillez, vous êtes en réveil, et puis vous repartez travailler dans la foulée quasiment.
Le lendemain, sinon.
Alors, il faut souvent que vous soyez accompagné pour que quelqu'un vienne vous récupérer. Mais après, vous n'avez aucune douleur, aucune séquelle. C'est un examen qui peut avoir des complications, qui sont rares. Et le gastro-entérologue pourra vous les informer. Mais ça se passe en règle générale très, très bien. Et souvent, lorsque l'indication est posée, il faut aller la faire.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. On est toujours plus rassuré quand on sait à quoi on a affaire. Merci.
Europe.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on vous expliquera pourquoi il n'est pas toujours nécessaire, voire même dangereux, de trop en dire sur son passé amoureux et sexuel à son nouveau partenaire. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on parle de sexualité et d'amour avec cette question de Virginie, 29 ans, je vous la lis. Lorsque nous nous sommes rencontrés, mon petit ami m'a demandé de lui parler de mon passé amoureux et sexuel. Combien de temps avais-je entretenu telle ou telle relation et quelles avaient été mes expériences sexuelles les plus osées? Aujourd'hui, ces confidences m'encombrent. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, pour répondre à Virginie, est-ce qu'elle a bien fait de répondre d'ailleurs à toutes ces questions, la poser, on dirait un interrogatoire, par son petit ami sur son passé?
Non, je crois que ce n'est pas une très très bonne idée, parce que ce que l'on vit a du sens au moment où on le vit. Ça peut en avoir plus longtemps, mais avec les personnes avec qui on les vit. On est dans une chambre à coucher, on est seul avec la personne avec qui on vit, et pas avec la terre entière, et pas avec son futur compagnon, mari, père de ses enfants. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être sur la place publique.
Donc on ne raconte pas toutes ces expériences passées, mais parfois ça peut être rigolo aussi de raconter une anecdote par-ci, par-là. Ou...
Bien sûr, ça peut être rigolo pour ça. Alors d'abord, l'interrogatoire peut être déplaisant, mais ça peut être rigolo, effectivement, que l'interrogatoire donne lieu à « oui, j'ai essayé ça, j'ai vécu ça », etc. Sauf qu'on ne sait pas qui pose la question au fond. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est son partenaire, nouveau petit ami, mais on ne sait pas ce que ça fait pour lui. C'est-à-dire que pendant ce temps, on ne peut pas mesurer s'il n'est pas en train de s'évaluer dans sa compétence personnelle, dans ses propres expériences, dans ce que d'autres hommes ont pu vivre ou obtenir de son ami. Mmh. Et donc, du coup, ça va fausser la liberté de sa créativité et de ses propositions à sa partenaire, parce qu'il se dit, voilà, oh là, j'ai déjà vécu ça, qu'il classera du côté...
Il veut son CV sexuel, hein, pour savoir par où elle est passée, avec qui, comment, pourquoi...
Exactement, ouais. Et potentiellement, cette femme qu'il aime, tout d'un coup, lui paraîtra vraiment trop posée, vraiment trop coquine, vraiment trop impudique, voire salope.
En même temps, donc, c'est lui qui a posé la question, il est gonflé s'il réagit comme ça.
Mais parce qu'on peut poser des questions en espérant qu'elle me dise ce que je voudrais entendre.
On peut aussi la jouer mytho, et dire « moi, j'ai connu personne avant toi ».
Ou à l'inverse, certains disent avoir vécu des tas de choses qu'ils n'ont absolument pas vécues, et après, en disant « ouais, je comprends pas, tu avais vécu ça », et ça devient impossible de dire « c'est pas vrai », parce que on ne sait plus pourquoi tout d'un coup la personne rétrograde. Donc je crois qu'il faut faire attention à ce que l'on dit et ce qu'on pourra porter soi-même.
Du coup, on limite ça à quoi? Au nombre de partenaires qu'on a pu avoir, mais s'il y a eu un nombre important, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire.
On divise par deux, Jimmy, toujours. C'est la règle.
Mais jusqu'où on va? On parle de positions qu'on a pu faire, de lieux où on a pu avoir.
On divise par deux là aussi, on divise par deux.
Mais où est-ce qu'on place le curseur de ce qui est acceptable dans une relation? Je pense que c'est propre à chacun. En plus.
Exactement. En fait, d'ailleurs, c'est amusant parce que dans les études où on demande le nombre de partenaires aux messieurs et aux dames, eh bien, il y a
beaucoup... Les mecs, c'est gonflé par trois et les femmes, c'est
par... Exactement. Mais souvent, parce qu'effectivement, d'abord, les femmes ont le sentiment que s'il y a trop, elles vont avoir une idée d'être des maris couche-toi là. Les hommes, s'il y a trop peu, qu'ils seront sans expérience. Et puis aussi parce que les hommes comptabilisent à partir du moment où ils ont approché ou eu une œillade ou pu toucher une femme comme une relation, alors que les femmes, elles comptabilisent à partir du moment où elles aiment. Où c'était jouissif. Et donc, ce qui veut dire que ça se divise automatiquement. Du coup, ça fait un décalage. C'est à se demander qui fait l'amour avec qui, parce que quand même...
Ah oui, il y a une femme et un homme, normalement, à chaque fois. Enfin, quand c'est... Là, on parle de rapport hétérosexuel, mais...
Donc oui, effectivement, pour vous répondre, Jimmy, c'est propre à chacun, ce que l'on peut dire, ce que l'on peut pas dire, c'est en son âme et conscience, ce qu'on a envie de dire, est-ce que c'est le nombre de partenaires, est-ce que c'est vraiment intéressant de donner le nombre de partenaires, parce que si je dis j'ai eu 20 partenaires, je peux avoir eu 20 partenaires dans des relations qui sont tout à fait, où je me sens respectée, respectable, où j'ai vécu des choses jolies, mais du point de vue de l'autre, 20 partenaires, mais ça fait combien par an, alors on calcule, depuis quand tu avais, etc., etc. Donc du coup, chacun peut se dire, alors si elle en a eu beaucoup, ça veut dire qu'elle trompe, ou ça veut dire qu'elle quitte, donc elle va me quitter. Et ce sont des calculs qui sont faits derrière.
C'est ça les risques aussi de tout dire, hein, c'est ça ?
Exactement. Donc c'est pas qu'il faut être, il faut pas cacher les choses pour les cacher, comme si c'était une maladie honteuse.
S'il ne pose pas la question, on n'en parle pas, quoi.
Alors oui, mais malheureusement, aujourd'hui, les couples se rencontrent, même quand ils se rencontrent sur Internet. La première chose qu'ils se disent au café, au premier, c'est quoi ta vie, c'est quoi ton avant, c'est quoi ton après.
On sait au moins s'il a été marié, s'il a eu des enfants, quoi, globalement.
Mais
c'est
malheureusement,
normal.
Les questions vont bien au-delà, jusqu'à savoir si tu as eu telle expérience ou telle autre expérience. Comme si on se disait, ça va être fun ou pas pour présumer de la possibilité érotique de la relation. En faisant ça, en fait, on se prive de tout ce qu'on va créer ensemble. Je crois que ça ne nous regarde pas. On peut se le raconter à l'occasion. J'ai été blessée sur tel truc ou j'ai eu une aventure qui a été très touchante pour moi et j'ai eu du mal à me réinvestir dans une relation et je me réinvestis avec toi parce que j'y vois quelque chose qui va effacer cette autre relation importante. Pourquoi pas ? Mais de là à dire j'ai essayé ça, combien de fois et comment, c'est enfermer la relation, enfermer la créativité du couple. Ça n'a pas vraiment d'intérêt.
Merci.
Ce n'est pas une question de mensonge, hein. C'est juste que ça n'a pas vraiment d'intérêt.
Merci Catherine pour tous ces conseils. Précieux comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h.